De Radio Classique avec David Abiker.
C'est l'heure d'Esprit Libre avec ce matin Dominique Moisy, expert en relations internationales et conseiller spécial auprès de l'Institut Montaigne. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Et puis Jean-Marc Daniel est également des nôtres ce matin, professeur d'économie à l'ESCP Business School et président de la Société d'économie politique. Jean-Marc, merci d'être là ce matin.
Bonjour.
Alors je vous avais promis qu'on serait en ligne avec Jean-Dominique Giuliani, le président de la Fondation Robert Schuman. Nous l'avons au téléphone. Jean-Dominique, bonjour.
Bonjour David.
Avant d'établir la liaison avec vous, j'avais dit Jean-Dominique Giuliani est un des orphelins de Jacques Delors. Qu'avez-vous perdu avec Jacques Delors ?
Écoutez, rien du tout. Je pense que Jacques Delors a été en quelque sorte l'incarnation d'une nostalgie européenne française. Les Français étaient fiers d'avoir un président de la Commission européenne pendant 10 ans, dans une période qui n'avait rien à voir avec celle d'aujourd'hui, mais qui était une période beaucoup plus facile et exaltante, puisqu'il s'agissait de construire le marché unique, qui, je le rappelle, était quand même soutenu par tous les grands industriels et qui est aujourd'hui ce qu'on appelle un acquis de l'Union européenne parmi les plus précieux. Je rappelle que, par exemple, le marché intérieur européen, c'est 4000 milliards d'euros d'échanges entre les pays de l'Union européenne, c'est-à-dire l'équivalent de son commerce extérieur.
Jean-Dominique Giuliani, pourquoi vous dites j'ai perdu rien du tout ? Enfin, j'ai du mal à vous suivre sur l'héritage en fait de Jacques Delors. C'est à ça que je pensais en vous posant la question.
L'héritage de Jacques Delors, c'est une autre période de l'Union européenne qui, je crois, a convaincu les citoyens plus sérieusement que leur parti politique, que l'Union européenne était un choix de raison. Et on voit bien qu'on s'affronte encore dans les partis politiques, notamment à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, contre l'Europe. Mais en réalité, vous le voyez bien, chaque fois que Marine Le Pen ou Giorgia Meloni est en situation de responsabilité, ben les citoyens les obligent à accepter l'Europe, qui est un choix de raison, qui a commencé en 1950 et continue aujourd'hui. Jacques Delors, c'est 10 ans d'engagement européen, de fierté européenne de la France, qu'on ferait bien de retrouver d'ailleurs.
Donc ça n'est pas rien, et certainement pas rien du tout. Jean-Dominique Giuliani, merci. Je retrouve Dominique Moisy et Jean-Marc Daniel. Merci d'être là tous les deux. Nous avions prévu de parler de la disparition d'un autre grand Européen, Wolfgang Schäuble. Pierre Moscovici vient de l'évoquer à l'instant, disparu lui aussi avant-hier. Nous évoquons aussi cet homme d'État allemand, mais commençons par Jacques Delors. Dominique Moisy, en quoi Delors a-t-il été probablement l'un des plus grands hommes d'État européens depuis la guerre avec Jean Monnet et Robert Schuman ? Moscovici parlait de fils fondateur.
Je crois que l'on ressent confusément, que Jacques Delors était d'une autre catégorie. Il servait l'Europe. À aucun moment, il n'a cherché à se servir de l'Europe. Son intégrité, son intensité, sa passion pour l'Europe était à nul autre pareil. D'une certaine manière, le concert de louanges qui s'abat aujourd'hui sur Delors.
Il est symptomatique un peu.
Est un portrait en creux critique de toute une génération d'hommes politiques, de François Mitterrand à Emmanuel Macron. Il était justement l'opposé. Il ne calculait pas. Il était modeste. Il était ce Français rare qui n'était pas perçu parce qu'il ne l'était pas comme arrogant. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de travailler un peu pour lui. J'ai rédigé un rapport. Il l'avait détesté, car c'était au début des années 90. Je suggérais qu'il fallait créer un nationalisme et une émotion européenne. Et il m'avait dit « Mais le nationalisme, c'est la guerre ». Je ne veux pas remplacer les nationalismes locaux par un nationalisme européen. Ce serait contraire à toute ma pensée. Et je m'étais un peu battu. Je lui avais dit, mais Monsieur le Président, si vous refusez cela, alors vous aurez le retour avec une vengeance des nationalismes nationaux. Et Plus tard, au début des années 2000, j'avais écrit un livre avec Hubert Védrine, qui s'appelait « La France, les cartes de la France à l'heure de la mondialisation ». Et je m'opposais assez fortement à Védrine, et il me disait « mais c'est très bien, parce que Védrine est beaucoup trop obsédé par les États-Unis et pas assez intéressé par l'Europe ». Il faut une modification de ce rapport. Et il dénonçait ce qu'il appelait le védrinisme comme une forme de tradition ancrée dans le Quai d'Orsay qui lui paraissait démodée, dépassée. En fait, aujourd'hui, je crois qu'il y a trois orphelins.
Il n'y a pas Jean-Dominique Giuliani.
Non.
Il nous l'a dit.
Non, moi, je me sens orphelin. Il y a l'Europe. Il y a la relation franco-allemande, c'est extraordinairement symbolique que en moins de 24 heures, Schäuble et Jacques Delors aient disparu, et quelque part la démocratie. C'était un amoureux de la démocratie. Et ces trois clés de lecture expliquent pourquoi aujourd'hui nous sommes si tristes. Et, alors je terminerai juste d'un mot, bien sûr j'ai été déçu. En 95, après cette émission avec Anne Sinclair. Mais au bout du compte, j'étais encore plus fier de Jacques Delors. Je sentais que l'homme se connaissait. Alors, Mitterrand avait dit, bien sûr, il veut être président, mais il veut pas être candidat. Non, je crois que c'était une manière beaucoup trop sévère de parler de l'homme. Il avait une trop haute opinion de la démocratie et de la politique.
Le départ de Jacques Delors, c'est un peu l'anti-portrait de la politique moderne, si j'ai bien compris, Dominique Moisy, entre autres. Jean-Marc Daliel, quel regard l'économiste que vous êtes porte sur les années Delors, qu'on peut séparer en deux. D'ailleurs, il y a le ministre de l'économie de François Mitterrand, qui ramène petit à petit la politique socialiste au réalisme et qui incarne une gauche de gouvernement. Et puis, il y a l'homme qui va faire l'intégration économique pour préparer l'intégration politique. L'intégration économique ira sans doute plus loin que l'intégration politique.
Oui, moi ce que je retiens de Jacques Delors, beaucoup parlent de l'Europe. Moi, il y a les deux autres Jacques Delors. Il y a le Jacques Delors conseiller social de Jacques Chaban-Delmas, incarnation du discours sur la nouvelle société. C'est-à-dire déjà cette espèce d'héritage du mandécisme. Chaban se définissait aussi comme un ami de Mendès, donc d'une gauche de gouvernement, d'une gauche réaliste, mais d'une gauche qui assume la réforme aussi, d'une gauche qui n'est pas une gauche passive, qui se contente pas de gérer les affaires courantes. Et puis, donc, il y a le ministre de l'économie et des finances, qui est, au début, il est marginal. Je rappelle que dans le premier gouvernement, il est 10e sur le rang protocolaire du gouvernement, et après la rigueur, après mars 1983, il est le 2e. Et il est le personnage clé. On va fêter les 40 ans de l'émission Vive la crise avec Yves Montand, et on lui demande si c'est lui qui est l'inspirateur de cette émission, qui marque la rupture de la gauche par rapport aux années keynésiennes. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'est pas le seul, mais il est le plus déterminé. Il n'est pas le seul parce qu'autour de Pierre Mauroy, il y a des gens qui réclament effectivement ce changement, notamment Jean Perlevade. Le mot rigueur, c'est Pierre Mauroy qui le met en place. C'est lui qui dit, je suis pas comme Raymond Barre qui fait de l'austérité, moi je fais de la rigueur. Et on lui demande quelle est la différence. Et Pierre Mauroy dit, la différence, c'est que la rigueur, c'est l'austérité plus l'espoir. Car nous sommes de la gauche, et donc nous incarnons l'espoir. Bon, Delors, il n'est pas dans cette espèce de, il est plus près des chiffres et il se bat d'emblée au moment où arrivent les 39 heures, la cinquième semaine de congés payés, la retraite à 60 ans. Il intervient dans le débat. Et Jean Roux, qui est le ministre du Travail, va le soutenir d'ailleurs en disant on peut pas avoir davantage de revenus monétaires et moins de travail. Et donc, il va falloir à un moment donné remettre les pendules à l'heure entre le choix de moins de travail et le choix de d'augmentation des revenus. Donc, c'est ce combat-là qui est intéressant. Et ce combat, ce que je trouve important, c'est qu'il le mène d'emblée, et il le mène en s'appuyant sur des références. Il dit, écoutez, les travaillistes ont été entre les mains du FMI en 1976. Roy Jenkins, qui est le président de la Commission européenne, d'ailleurs qui est celui qui initie ce processus de concurrence sur lequel il va appuyer l'acte unique, Roy Jenkins le soutient. Jan Tinbergen, qui est prix Nobel d'économie, qui est membre du Parti travailliste néerlandais, le soutiennent. Tous ces gens-là le soutiennent.
Il est plus soutenu plus par les gauches étrangères que par la gauche française.
Et sa détermination va faire que effectivement, il finit par gagner. Alors, il gagne aussi parce que il le dit bien d'ailleurs, il convainc Mitterrand, hein, comme d'ailleurs Monroy et Perlevade, en leur disant écoutez, effectivement, c'est ça où 1976 au Royaume-Uni, c'est-à-dire, c'est ça où le FMI va régler les problèmes que nous ne sommes pas capables de régler. Et je crois que là, il a joué un rôle. Alors, Giuliani l'a dit, on n'a rien hérité de Delors. Si, on a hérité ce constat que s'il n'avait pas été là, je pense que nous aurions été effectivement humiliés par la venue du FMI et par un abaissement général du pays qui fait que tout ce qu'a pu faire Mitterrand, notamment au niveau européen après, n'aurait pas pu avoir lieu.
Dominique Moïsi, on va se projeter aujourd'hui, en 2023. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une menace ou une menace sur l'héritage européen tel que l'a bâti avec d'autres Jacques Delors?
Ben, y a un paradoxe, c'est que jamais on a eu autant besoin de l'Europe, avec cette idée que à partir de janvier 2025, l'Europe puisse devoir se substituer aux États-Unis. Parce que Trump sera revenu aux affaires, il aura cessé de soutenir l'Ukraine, et l'Europe se retrouvera seule en première ligne. Alors vous avez ces études qui circulent, et qui disent, mais contrairement à ce que pensent beaucoup d'Européens, c'est faisable, ce n'est pas facile, c'est faisable. Et le sacrifice est même calculé financièrement. Si l'Europe devait remplacer l'Amérique dans son aide à l'Ukraine, il en coûterait 70 euros en moyenne pour chaque Européen. En soi, c'est ridicule, ça peut paraître énorme pour beaucoup de citoyens européens. Et donc, ça c'est la première ligne. On n'a jamais eu autant besoin de l'Europe. Mais en même temps, on n'a jamais autant douté de l'Europe, avec cette idée que en juin 2024, dans quelques mois, les partis d'extrême droite seront confortés au sein du Parlement européen. Donc c'est cette contradiction entre le besoin d'Europe et la difficulté de convaincre les citoyens qu'ils n'ont pas d'autre alternative.
Et les grands Européens manquent. On parlait de Wolfgang Schäuble. Peut-être pour nos auditeurs, rappeler pourquoi c'est un homme, un pilier de cette Europe qui part.
Oui,
Jean-Marc Daniel.
Il a été lui aussi ministre des Finances, Wolfgang Schäuble, et un ministre des Finances très attaché aux principes fondateurs de l'économie politique, l'ordolibéralisme allemand, c'est-à-dire équilibre budgétaire, alors pas au jour le jour, hein, équilibre budgétaire sur une période, on accepte le déficit budgétaire dans les périodes de récession pour limiter les dégâts économiques, mais globalement, sur la durée d'un cycle économique, les finances publiques doivent être équilibrées, et le défenseur d'une monnaie forte. D'ailleurs, Jacques Delors aussi était le défenseur d'une monnaie forte au moment de... Il est là au moment de Maastricht, hein, même si Maastricht est très politique. Et puis, il y a des gens comme Jean-Claude Trichet qui sont à la tête des groupes de travail de réflexion sur l'avenir de Maastricht. Et donc, le projet qui était le projet de l'euro, c'était de faire un rival du dollar, d'une certaine façon, de former une souveraineté monétaire européenne qui permette, on l'a dit, de rivaliser avec les États-Unis. Non pas d'affronter les États-Unis, mais de les concurrencer. Or ça, on n'y arrive pas. Et là, c'est en ça que l'héritage de Jacques Delors et de Schäuble nous manque. C'est que une des raisons pour lesquelles on n'y arrive pas, c'est que les finances publiques françaises sont dans un état pathétique. Mmh. Et que notre président de la République a assumé ça en disant lors du sommet où il a reçu le prix Charlemagne, il faut se débarrasser du fétichisme des excédents budgétaires et commerciaux. Or, s'il y a deux personnages en Europe qui pensaient que c'était pas du fétichisme, mais une nécessité, c'est bien Schäuble et Delors.
C'est assez curieux que les Français qualifient, utilisent un mot qui est synonyme d'obsession sexuelle, la seule rigueur budgétaire.
Absolument.
Il y a quand même une psychanalyse à faire des Français qui eux-mêmes accusent de fétichisme ceux qui estiment qu'un sou est un sou. Je referme la parenthèse.
Dominique, je suis assez d'accord avec vous.
Dominique Moïsi sur Wolfgang Schäuble.
J'ai un souvenir personnel de lui. En 2015, nous avions été invités tous les deux à parler au musée historique allemand lors d'une réunion qui s'appelait Enfants de la guerre. il s'agissait de célébrer la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et il n'avait qu'une seule obsession. Il me demandait à chaque moment, mais est-ce que Marine Le Pen risque d'arriver au pouvoir en France dans moins de 2 ans? Et c'était un moment où il y avait vraiment un couple franco-allemand dans la tête. Et il me disait, mais si jamais elle arrive au pouvoir, toute la construction européenne n'a plus de sens pour nous, Allemands. Nous avons fait tous ces sacrifices pour en arriver là. Et il y avait, et là je retrouve un peu Schäuble et Delors, il y avait une passion commune pour cette cause qui était pour eux la cause de la démocratie.
Parce que tous les deux ont connu la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient ados pendant la guerre mondiale, c'était presque des jeunes hommes. Hein.
Non. Schäuble,
il est né en 44. Jacques Delors avait une quinzaine d'années pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Jacques Delors est né en 1925, donc en fait il était pas de la même génération.
Jean-Marc Daniel, un tout dernier mot sur le couple franco-allemand. Je vous fais une confidence, j'ai regardé un documentaire sur Angela Merkel sur Netflix. Documentaire fait par une jeune réalisatrice allemande. Alors, il y a des témoignages d'Américains, il y a Hillary Clinton, il y a des témoignages des Anglais. Il n'y a pas un président, pour parler d'Angela Merkel, un président français. Ça veut dire que le couple franco-allemand, c'est une chimère française, c'est quelque chose qui vit dans l'esprit des Français, mais beaucoup moins dans l'esprit des Allemands.
Oui, je le crains, d'autant plus qu'effectivement, dans les positionnements de la France, sur le plan économique, elle se heurte de plus en plus à des gens qui sont pas forcément d'ailleurs les Allemands, mais qui tous les frugaux sont des amis de l'Allemagne. On a l'impression qu'ils parlent au nom de l'Allemagne, mais que l'Allemagne n'ose pas vraiment s'intéresser à ce que nous faisons. Donc, c'est eux qui sont les sous-traitants de la colère, l'agacement et l'irritation allemande à notre écart. Et donc, je pense que tout ça montre une forme de déshérence progressive de ce couple. Je ne sais pas ce qu'en pense Dominique. Je pense qu'il y a beaucoup de symboles et de moins en moins de concrets.
Oui. Non, il fut un temps où l'Allemagne s'intéressait à ce qui se passait en France. C'est de moins en moins vrai, hélas. Mais c'est un processus vers le bas. Ça n'est pas un point de départ.
Vous reviendrez tous les deux, ou séparément, pour en parler. Dominique Moisy, merci. Jean-Marc Daniel, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Nous mettons terme à cette conversation avec l'hymne à la joie tiré de la 9e symphonie de Beethoven. Dans un instant, la météo, le rappel des titres, enfin le flash d'Héloïse Weiss, et puis Franck Ferrand qui nous raconte.